Ce qui nous importe, c'est l'histoire. La grande, avec un H majuscule.
Le Palais Bourbon.
Seule la démagogie peut donner à croire aux illusions. J'observe d'ailleurs que ni de part ni d'autre n'existe une politique alternative qui soit à la fois globale et crédible. Le gouvernement, dès lors, entend poursuivre l'œuvre qu'il a engagée et la poursuivre avec opiniâtreté.
Quand il était Premier ministre, Michel Rocard utilisait plus souvent qu'à son tour l'arme du 49-3 qui déclenchait la réplique de la motion de censure, mais il consentait fort bien à ajouter à d'autres occasions à sa majorité toujours relative telle ou telle voix quand elle acceptait de se porter sur lui à un moment ou à un autre. Michel Rocard disait avoir confiance en la liberté du vote personnel. Les majorités d'idées, selon lui, pouvaient se réaligner différemment en fonction des textes. Ce n'est pas la tradition du Palais Bourbon telle qu'elle s'est construite, en tout cas depuis le début du XXe siècle. Les socialistes, les premiers, imposèrent la discipline de groupe. Un député boîtier, au bout de la rangée, vote au nom des absents et les dissidents sont priés d'obtempérer s'ils veulent voir renouveler leur investiture par le parti. Mardi, les élus de l'opposition qui entendaient voter la loi Macron avaient les oreilles qui sifflaient, tout comme les frondeurs socialistes qui voulaient la refuser. Au fond, les députés sont des rouages d'une grande machine partisane. Ce sont des camarades d'usine. Mais leurs lieux de travail, évidemment, sont confortables. Le public connaît bien la salle des quatre colonnes où ils effectuent la tâche la plus prosaïque qui soit, distribuer le pain à d'autres ouvriers spécialisés, les journalistes. Cependant, entre les murs du Palais Bourbon, sous une verrière qui laisse mal passer le jour, il est un lieu consacré, sans lequel l'endroit n'existerait pas et qui s'appelle l'hémicycle. Les bâtiments faits de main d'homme enveloppent une utopie qui demeure au centre, l'utopie de la construction de la loi, par la parole partagée.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Delphine Gardet, bonjour, qui publie au bord de l'eau Le linge du Palais Bourbon. Vous avez une vieille empathie pour l'endroit. Vous étiez assistante parlementaire.
Oui, bonjour. C'était il y a fort longtemps, peut-être 20 ans déjà.
Et vous avez combiné avec cette empathie pour le Palais Bourbon la volonté d'observer le travail des employés. Ça, c'est souvent le ressort de vos enquêtes. On vous avait reçu pour une émission mémorable sur les secrétaire, ce qui vous a fait travailler dans les archives du Palais Bourbon à la recherche, comment dire, du squelette du corps parlementaire,
oui,
l'armature.
Absolument, il s'agit vraiment de rendre compte de tout ce qui fabrique l'Assemblée, de toutes les choses, les hommes et quelques femmes qu'il a fallu mobiliser pour faire vivre cette idée nouvelle, complètement nouvelle, dans l'histoire des idées.
Donc on va aller dans les bureaux, on va même ouvrir les placards, trouver le linge, il y a un trousseau à la chambre.
Oui, il n'y a plus d'un trousseau, des rideaux.
Et puis il y a un trousseau différent à l'hôtel de la SEC, qui est la résidence du président de l'Assemblée nationale. Résumé cursif par qui vous allez deviner de l'histoire de l'endroit.
La duchesse de Bourbon, fille légitimée de Louis XIV, acheta il y a 2 siècles et demi un terrain vague jouxtant le fameux pré au clair et y fit édifier un palais, le Palais Bourbon. Celui-là même, monsieur le député, où vous siégerez demain, et à côté duquel, comme le montrent les plans de Turgot, le marquis de Lassay se fit construire un hôtel plus petit, devenu depuis celui du président de votre assemblée. L'hôtel du marquis de Lassay fut conçu comme une réplique, donnant lui aussi sur la Seine et sur la rue de l'université où il apparaissait au fond d'une cour imposante. 50 ans plus tard, les deux bâtiments devenaient propriété de monsieur le prince de Condé, lequel y procéda à d'importantes transformations que les Parisiens venaient admirer depuis les berges du cours de la Reine rive droite. Sous l'Empire, Pouillet transforme le côté Seine pour faire pendant à la Madeleine. Nouvelles transformations encore à l'intérieur, le comte de la Bourdonnais, ministre de Charles X, pose en novembre 1829 la première pierre de l'actuelle salle des séances.
Le révérend père Zitrone. Alors, la salle des séances, arrêtons-nous d'abord à l'hémicycle. La première salle des séances au Palais Bourbon, après les Tuileries, a été inaugurée le 21 janvier 1799, 30 ans avant les travaux de réaménagement qui étaient évoqués ici. Le corps du roi avait été coupé. un autre 21 janvier. C'est plus facile, au fond, pour représenter la nation, d'avoir un corps même découpé sur un trône que d'avoir des centaines de corps assis sur des banquettes.
Oui, c'est un petit peu le sens de la réflexion. Comment faire vivre, en fait, cette nouvelle force politique qui émane du peuple, mais qui ne doit pas rester, en fait, incorporée dans des êtres qui sont nécessairement à abstraire. C'est une idée nouvelle. Donc la mort du roi permet l'inauguration en grande pompe, qui a lieu d'ailleurs, avec les corps constitués qui défilent, de cette nouvelle salle.
Les corps constitués devant un corps collectif qu'il faut protéger, parce que c'est bien le peuple quand il vote pour des députés, mais quand il envahit une salle de séance, ça s'est fait plus d'une fois pendant la Révolution. 31 mai 93, expulsion des Girondins. 2 juin 93, expulsion de ce qui reste des Girondins. 20 juin 95, on promène la tête d'un député qu'on a décapité sous le visage du président de l'Assemblée. Alors là, c'est plus le peuple, c'est la foule, la populace.
Oui, il faut créer en fait la possibilité de faire vivre cet espace dialogique qui est si précieux, l'espace où la loi sera faite, où on parlera, où on débattra, et le faire avec la force qui émane du peuple, mais en se protégeant aussi du peuple, en se protégeant de l'exécutif, bien sûr.
Alors, les agressions peuvent venir aussi de l'exécutif.
Oui. Donc, en fait, les premières assemblées, ce qu'elles ont à faire, ce qu'elles doivent faire, c'est penser des règles de fonctionnement, des règles de police, des règles de circulation et de présence qui les protègent.
Alors, les agressions de l'exécutif, on pense, puisqu'on est à la période révolutionnaire, aux 18 brumaires, mais le bonapartisme a une habitude antiparlementariste. Vous racontez décembre 1851, après le coup d'État, les députés essayent de revenir au Palais Bourbon.
Oui, ils essayent de revenir parce qu'il y a eu donc une pénétration, un viol, c'est ce qui est le mot qui est signalé dans les archives de l'Assemblée, par en fait les forces militaires qui normalement ne devraient répondre que de l'autorité du président de la Chambre. Et elles se sont mises à la solde de l'exécutif, donc de l'empereur, enfin de Louis-Napoléon, et elles sont pénétrées par des petites coursives et ne répondent plus des autorités de la Chambre. Donc en fait, deux questeurs sont arrachés de leur sommeil, quasi nus, le lendemain, des députés viennent constater, puisque ça s'est passé pendant la nuit, ce viol de la Chambre, en ramenant leur propre corps pour montrer qu'il y a eu donc une atteinte à la souveraineté qu'ils constituent.
Alors, quand la Chambre est violée, il y avait une bonne vieille méthode pour le président qui consistait à se voiler la face avec son manteau. Mais il y a peut-être des systèmes, le sage Jean-Pierre Mocky les a enregistrés dans son film Une nuit à l'Assemblée nationale, de tri, de sélection plus efficace.
Pas de paquet suspect, pas de revolver, pas de bombe.
Je suis député.
Ça n'empêche pas, lundi dernier, un député UDF est bien passé avec un bâton de dynamite caché dans sa ceinture arrière.
Oh, bah dites donc, je me demande bien comment vous allez se rentrer, vous.
J'ai une carte.
Oui, bon, bah, vous les avez toutes, les cartes. RPR, PR, MRG, CNI, PCF, PS, RI.
Oui, sauf celle du Front National.
Ah, bah, coco, vous n'aviez qu'à pas avoir un père qui était émigré. C'est bien fait pour vous.
Et vous deux, au lieu de traîner, contrôlez l'entrée de la galerie. On vous paye par vos bails.
Inscription de séance, messieurs-dames.
Papier, badge, autorisation.
Je suis ministre.
Monsieur, nous sommes 1563 pour contrôler 45 000 mètres carrés. Alors, soyez coopératifs.
Je suis ministre, alors.
Je suis député, je suis ministre. Bon, là, on peut entrer. Et quand vous étiez assistante ?
Il y a des espaces qui ne nous étaient pas autorisés. Évidemment, on ne peut pas pénétrer. N'importe qui ne pénètre pas dans l'hémicycle.
Parce que maintenant que vous êtes professeur à l'Université de Genève, c'est beaucoup plus difficile pour vous de pénétrer.
Bien sûr. Mais quand j'ai fait un travail d'observation du travail des sténographes des débats, j'avais droit à un badge sur lequel il y avait une petite couleur que j'ai oubliée, que je crois que c'était marron, et qui me permettait de circuler dans la salle des quatre colonnes, la salle des pas perdus, jusqu'à certaines, parfois, pouvoir rentrer dans les petites guérites qui sont sur les côtés pour observer le travail dans l'hémicycle.
Parce que votre observation consiste à voir comment circulent les corps,
oui,
les uns devant éviter les autres.
Absolument. En fait, l'hémicycle lui-même ressemble en fait à un territoire extrêmement morcelé. C'est-à-dire que les ministres n'ont pas le droit d'aller dans certains lieux. Ils traversent les lieux, mais il y a des espaces qui sont vraiment réservés aux uns et aux autres, aux législatifs, à l'exécutif, au personnel, les journalistes qui sont donc accrédités. Et puis il y a aussi
journalistes ne peuvent pas pénétrer dans l'hémicycle.
Non, ils pénètrent en fait par des couloirs extérieurs qui les mettent sur des petites loges comme au spectacle en quelque sorte, qui sont des loges spécifiques à leur disposition. corruption, de la même façon que les membres du cabinet des ministres qui peuvent aussi assister au débat quand les ministres, leurs ministres sont en présence.
Quant aux anciens parlementaires, ils ont droit à une tribune spéciale qui s'appelle l'ossuaire. Toujours le squelette, le corps, c'est votre souci. La protection du corps est assurée, avez-vous dit, Delphine Gardet, par des hommes armés. Mais alors ces hommes armés sont détachés de l'autorité du ministre de la Défense pour passer sous celle du président de l'Assemblée.
Oui, en fait, c'est par rotation que des gardes sont mis à disposition, des forces militaires sont mises à disposition de l'Assemblée. Et à partir du moment où elles sont de service à l'Assemblée, elles ne répondent que de l'autorité du président. Elles ne peuvent connaître aucune autre autorité. Donc elles demeurent finalement la force militaire de la nation, mais cette force militaire est suspendue au profit de la seule autorité du président de la Chambre.
C'est pour ça d'ailleurs que la Chambre est propriétaire de son hôtel et de ses bâtiments depuis la Restauration et qu'il y a un budget spécifique. Vous parliez des questeurs tout à l'heure, ce sont ceux qui gèrent le budget autonome de l'Assemblée. Parce que les Français disent ça coûte trop cher, il y a des dépenses excessives, mais le principe c'est l'autonomie.
C'est un élément clé pour pouvoir faire vivre l'institution, qu'elle puisse décider pour elle-même. Donc, vivre en un lieu qui soit le sien, dont elle définisse les règles de sécurité et de police, et puis aussi détenir un budget pour pouvoir faire vivre ses travaux. Alors évidemment, il peut y avoir des abus, c'est pas la question, mais on peut aussi se replacer dans le contexte historique de l'importance que ça représentait de pouvoir définir cet ensemble contre le pouvoir du roi, contre le pouvoir de l'empereur, c'est-à-dire contre le pouvoir de l'exécutif. Avoir un budget, c'est essentiel pour pouvoir exister.
Avoir ses meubles, le bureau du président à la tribune, il est là depuis 1798. Oui. Avoir ses employés. Alors parmi les employés, on a laissé tout à l'heure le président allant vers la salle de séance accompagné par les détachements armés dont il a le commandement. Il y a les huissiers qui prennent le relais de la protection du président quand il entre en séance.
Absolument, la force est suspendue dans l'espace de l'hémicycle et ce sont les huissiers qui font la police de la séance. Et ces huissiers sont de différents ordres. Certains, en fait, relèvent de l'autorité de l'hôtel de Lassé et sont plus ou moins attachés à la personne du président. Et d'autres relèvent de l'autorité de ce qu'on appelle donc les services législatifs et sont attachés au palais Bourbon. Et en fait, ils règlent les circulations, ils acheminent les missives. Ils sont un petit peu comme des garçons de café parisiens. Ils connaissent toutes les rangées, ils ont des trombinoscopes qui les aident en fait à se souvenir du nom des personnes. Et ils ont en fait un secteur, comme une petite tranche de camembert à surveiller, comme une terrasse de café. Et ils sont responsables de ce secteur pour assurer les transmissions dans ces secteurs.
Et ils avaient une épée.
Autrefois, jusque dans l'entre-deux-guerres, l'épée qui marque justement, encore une fois, la suspension de la force et l'autorité propre à l'Assemblée.
Non, parce que les Français nous disent, ça coûte bien cher, on pourrait utiliser des sociétés de sécurité privée. Au Parlement du Cap, en Afrique du Sud, le moment solennel du discours à la nation du président a été perturbé par des députés opposants la semaine dernière et on a vu surgir deux membres de sociétés de sécurité différentes, armées, et personne ne savait qui c'était, et ça a été la pagaille complète. Tandis qu'à l'Assemblée nationale, la tradition veut même que les huissiers soient héritiers de dynasties d'employés, comme ici M. Cotin.
Toute mon enfance s'est passée dans cette maison, du fait que mon père et ma mère ont travaillé comme hommes et femmes de service au temps de la Chambre des députés. Et ensuite, à la Libération, je suis rentré comme agent et j'ai gravi tous les échelons jusqu'à la place de chef des huissiers, ce que mon père aurait toujours voulu être.
Monsieur le Président !
J'ai emprunté ce couloir pour accompagner le Président jusque dans la salle des séances plus d'une millier de fois.
Dans l'heureux temps où nous sommes, pour célébrer les grands hommes, il suffit de les nommer. Coupé, Menu, Menon, Tonnerre, Boucher, Barnave, Robespierre, Rebelle, Duport, Curte, Delacour, Lejean, Poutre, de Liancourt, Rabi, Rabou, Fausse, Lafayette, Mullier, D'Aiguillon, Labette, Dupont, Failly, Plat, Dinochaud, D'Orléans, Bandit, Mirabeau, Châtre, Biencourt, Buzeau, Dieuzic, Noailles, Pélissier, Lavis, Levis, Gros, Longfort, Jacquemart, Redereur, Le Couteux, Goudard, Bureau, Lacôte, Dessalines, Logras, Allard, Cochon, Deluine, Leclerc, Leroux, Leblanc, Lebrun, Noir, Païen, Évêque. Lotin. Chasset, Bailly, Bayot, Billette, Bion, Bertonnier, de la Villette, Babet, Bayeux, Bria, Ballard, Beaucheton, Baudouin, Balidard, Beaucheton, Baudouin, Balidard, Bazin, Baudra, Blin, Villeneuve, Fermont, La Porte, Maisonneuve, Parent, Bourgeois, Marquis, Baron. Brove, Brousse, Bourron, Bourron, Brove, Brousse, Bourron, Bourron. Seigneur les riches, Mèreville, Puisette, Delors, Mondor, La Ville, Le Roux, Biron, Michel Morin, Tailleur d'à-coup par Guillotin, Tailleur d'à-coup par Guillotin, Rase de Prébeau, Palbardi, Muguet, Fleury, Branche, Fleury, Hercé, Dion, Fargeau, Latour. Livré Dionys du séjour, livré Dionys du séjour. Bois de Mâcon, Bordeaux, Poté, de Sillery, de Puy-Vallée, Chevreuil, Vanneau, Merle, Perdrix, Brocheton pour la poulerie, Brocheton pour la poulerie, Petit Salé de Chou, Marolle, de Roquefort, Brignon, Creusol, Pain de Froment, Belbeuf, Cardon. Poule à la petit pois melon, poule à la petit pois melon.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Le Palais Bourbon, c'est notre thème aujourd'hui avec Delphine Gardet qui publie un livre aux éditions du Bord de l'eau. On a entendu un motif de Salieri très adapté par Yves Prin. L'interprétation de cette chanson de l'époque révolutionnaire était d'Hélène Delaveau. Elle dit bien cette chanson, le thème de votre réflexion. Le corps a plusieurs centaines de têtes de la députation en France. Ce qui est très important, c'est dans le fonctionnement de l'Assemblée, la rédaction et la publicité des débats, Delphine Gardet.
Oui, c'est une institution qui est essentielle à la production de la démocratie, pour pouvoir en fait porter au public, non seulement le public qui est en séance, mais au-delà, au public, au peuple français, l'ensemble des discussions qui ont lieu. Alors elle commence, cette institution, sous la monarchie de Juillet, avec des sténographes qui sont attachés aux journaux. Et en 1848, les sténographes deviennent des fonctionnaires de la Chambre. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette fonction de sténographe que le terme de fonctionnaire apparaît pour la première fois dans les archives de la Chambre des députés.
Qu'est-ce que c'est l'importance philosophique de la publicité? Charles Péguy, quand il reproduisait les débats parlementaires, il l'a fait à plusieurs reprises dans les cahiers de la quinzaine, disait « il faut que le peuple puisse vérifier s'il est victime d'abusements par ses mandataires ».
Oui, mais on peut se souvenir de Robespierre qui imaginait en fait un parlement de près de 15 000 personnes, c'est-à-dire cet idéal révolutionnaire de la présence du peuple dans la délibération, dans le moment où on traite de la chose publique. Elle est en fait réalisée à distance par la technologie de la prise de notes et par la retranscription des dires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir porter la nouvelle par transparence de ce qui se dit, de ce qui se discute, et donc créer ainsi l'espace public, l'espace de l'opinion.
C'est très important, l'exact attitude des dires. Et donc, il y a un service autonomisé. Vous avez parlé de ce groupe de fonctionnaires. Et le service s'appelle le compte-rendu analytique, le service du compte-rendu.
Oui, alors les sténographes, en fait, travaillent deux en séance, de chaque côté du proscenium, de la tribune, et ils prennent en note en permanence en se relayant, comme sur un relais 400 mètres, on pourrait dire. Et à mesure qu'ils prennent des notes, ils sont d'autres leur succèdent, et ils vont transcrire dans le service, les notes qu'ils ont prises, qui sont ensuite envoyées par pneumatique, une fois transcrites et révisées, au journal officiel pour être imprimées, qu'est Voltaire.
Mais quel est le rôle, à côté des sténographes, j'allais dire au-dessus des sténographes, de ceux qu'on appelle aujourd'hui les rédacteurs des débats, qui s'appelaient les secrétaires des débats?
Alors en fait, il y a deux institutions. Il y a d'une part l'exhaustif et d'autre part l'analytique. Donc les sténographes s'occupent de l'exhaustif, c'est-à-dire qu'ils prennent en note tout ce qui se dit. Et ils restituent l'intégralité de ce qui a été dit. Alors que du côté de l'analytique, on va cette fois prendre plus le squelette et analyser en fait pour la presse, notamment, l'essentiel de la teneur des débats.
Nicolas Véron, ici au micro d'Antoine Perrault, France Culture, l'an 2000, il est secrétaire des débats et il dit qu'en effet, son souci est de dégager le sens et de ne pas tout reproduire, des interruptions par exemple.
Il est clair qu'on ne peut pas garder toutes les interruptions. On ne garde que la plus caractéristique, je suppose, et celle qui est la mieux venue et qui tombe au meilleur moment. Le problème, c'est que nous sommes obligés de mettre celle qui donne lieu à un rebondissement du débat, ou même qui donne lieu à un incident, une suspension de séance, une demande de fait personnel, que sais-je encore. Et on garde aussi le pittoresque, quand même. Je me souviens qu'un jour, Georges Hage, qui est le doyen du groupe communiste et qui s'exprime toujours dans un langage châtié, voire fleuri, et en tout cas assez recherché, avait fait une interruption qu'on n'avait pas très bien comprise. on avait eu l'impression qu'il nous disait « ce sont des histoires à la Peanuts ». Et ça nous étonnait parce qu'il est plutôt habitué à citer La Fontaine, Victor Hugo ou l'Ecclésiaste que le regretté Charlie Brown. Heureusement, on était plusieurs dans l'hémicycle et l'un d'entre nous avait entendu distinctement « c'est une victoire à la Pyrrhus ». Je crois que si nous avions maintenu notre première idée, nous l'aurions beaucoup déçu.
Le regretté Georges Hage qui vient de disparaître. On sent au ton de Nicolas Véron que c'est un métier virtuose.
Oui, d'aristocrate, de virtuose. Très qualifiés. Ces messieurs, parce que ce sont des messieurs seulement, juste que très, très, très tardivement, sont en fait comme des violonistes. Ils doivent s'exercer chaque jour et prendre en vol la parole telle qu'elle a été dite pour la retranscrire exactement. Et même quand il y a d'autres technologies alternatives qui vont se développer, l'institution du compte-rendu par la scénographie demeure.
Puisque vous parlez des femmes, vous voulez parler des femmes, cette histoire bien connue dans les annales, c'est celle d'un député qui surgissait toujours pour se faire enregistrer dans une interruption au début des séances de nuit, vers 22h, et puis qui revenait toujours à 2h du matin et se faisait enregistrer de nouveau. Et sa femme, qui avait confiance dans le compte-rendu analytique, n'a jamais su qu'il rejoignait sa maîtresse à ce moment-là.
Les nuits parlementaires ouvrent beaucoup d'espace.
Alors, les nuits parlementaires, on explique, encore sous la 4e République, que le métier de secrétaire des débats peut difficilement être occupé par une femme. La première femme, c'est 1956.
En fait, oui, la liturgie de cet espace républicain de notre démocratie qu'est le Palais Bourbon demeure exclusivement masculine jusque très tard. Et de la même façon qu'on a du mal à admettre que des femmes puissent élire et être élues, elles seront après la Seconde Guerre mondiale, et qu'elles puissent siéger à l'Assemblée, on a du mal à admettre qu'il puisse y avoir donc des personnes qui travaillent dans l'hémicycle.
On n'a pas trouvé de témoignages enregistrés de femmes employées à l'Assemblée nationale dans nos archives, mais voici sous la signature de Danielle Brehm, chroniqueuse bien connue de la vie parlementaire à la télévision, quelques portraits de femmes députées. Alors, il y en a eu un nombre significatif à la Libération, moins sous la 4e République, et elles sont très très minoritaires cette année 1963, où Danielle Brehm les interroge. D'abord une communiste, Jeannette Prin.
J'ai déjà été députée en 51, en 56, et ici alors le troisième mandat. Dans toutes les cités, on m'appelle Jeannette.
Avez-vous beaucoup de courriers ?
Beaucoup de courriers de femmes, parce que j'ai l'impression qu'elles se confient plus parce que c'est une femme. Beaucoup de courriers aussi venant des PTT,
oui,
parce que je suis une ancienne employée. Et notamment, alors, je vous avouerai qu'il y a une corporation spéciale, les gardiens de phare, qui m'écrivent.
Et pourquoi ?
J'ai été habilitée pour défendre un projet de loi les concernant.
Je m'appelle Madame de la Chevrolière, plus exactement Magdeleine avec un G, car j'y tiens beaucoup. Je me suis mariée très jeune. J'avais commencé par faire une licence de philosophie. Et mon mari, trouvant que la philosophie était tout à fait inutile dans la vie, m'a conseillé de faire une licence de droit. Si j'avais su, j'aurais fait Sciences Po.
Comment vous appellent vos électeurs ?
Ils m'appellent en général Madame le député, mais quelquefois Madame mon député.
Tous les domaines sont bons pour un élu. Je ne sais pas si vous avez lu un livre autrefois qui s'appelait Maîtresse Jacques. J'ai l'impression d'être une maîtresse Jacques.
L'Assemblée ayant la fâcheuse idée de siéger pendant toutes ses sessions au même endroit, c'est-à-dire à Paris. 4 jours à Paris et 3 jours à Marseille. Voilà le rythme de ma vie. Et en ces 3 jours, il faut évidemment essayer de réaliser la plénitude de ma vie de femme et de maman.
Germaine Poinceau-Chapuis, qui fut la première femme ministre de plein exercice et qui tenait le cabinet d'avocate de fer pendant la résistance quand il était clandestin. À vous lire, quand même, Delphine Gardet. On apprend que c'est plus difficile d'entrer dans l'administration de l'Assemblée nationale que d'entrer dans l'hémicycle pour une femme.
C'est presque aussi difficile, disons. En tout cas, il y a des postes qui sont possibles, mais pas dans l'hémicycle pour les femmes employées. Il va y avoir un procès en 1972 à la suite donc de la réussite du concours de sténographe des débats par une jeune femme qui sera donc exclue de l'admission à ce concours. Au prétexte que le service ne peut pas absorber plus de 10% de femmes. C'est un numerus clausus qui date des années 50 et ça va être attaqué. Donc cette jeune femme va déposer plainte au tribunal administratif, il va y avoir une campagne en sa faveur et l'Assemblée nationale va devoir se justifier du droit discriminatoire qu'elle produit contre ses propres employés et contre le droit positif qu'elle est en train de promouvoir en matière d'égalité professionnelle.
Et là, il faut citer des noms de députés femmes qu'on a oubliés. J'ai nommé à dessein Madame Poinceau-Chapuis, Madame Deveau, Madame de Lipkowski, qui sont intervenues dans ces affaires que vous
décrivez. Oui, des gaullistes, des femmes résistantes qui, en fait, partent en fait en campagne avec des collectifs d'associations féminines et un peu parfois féministes ou syndicales pour faire vivre le droit à l'égalité dans la fonction publique. En fait, il y a une ambivalence encore. Il est possible pour des raisons de service. Alors donc le directeur du service va écrire longuement au questeur pour expliquer que la nature du service empêche que la nature des femmes y pourvoie. Les femmes, on le sait, sont beaucoup plus faibles, malades. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elles sont infirmières de nuit. Hein. Donc, elles ne peuvent pas siéger à l'Assemblée la nuit. Elles ne peuvent pas travailler dans le service. Elles vont nuire à la qualité du service. Mais en revanche, quand il s'agit de les avoir au chevet de nos mourants, là, leur dévouement est total et on ne se préoccupe pas de leur santé.
Et si on résume le parcours dans la longue durée, elles ont commencé par tenir le bureau de tabac. Elles ont été acceptées comme veuves d'employés. Et puis, sont venues les bas de soie.
Oui.
Qu'est-ce que c'est les bas de soie? C'est les premières employées de bureau?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle des employés en veston, les cols blancs, et donc on parlait des dactylographes ou des premières secrétaires de bas de soie, de ces dames qui venaient dans les bureaux en bas de soie, donc qui ont en fait des traits de comportement de type classe moyenne, mais qui sont quand même des femmes employées, des salariées.
Alors, votre réflexion vous amène pour finir à imaginer, après Sloterdijk, le philosophe allemand de Karl Stroh, un hémicycle pneumatique qui serait indemne de toutes ces considérations prosaïques que nous avons faites depuis le début de l'émission.
En fait, l'idée, c'est de montrer qu'il y a beaucoup d'histoires accrochées à nos institutions. Il faut savoir dans nos institutions ce à quoi on tient et ce dont on voudrait se départager. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre, l'Assemblée nationale a eu besoin de s'attacher des procédures, des protocoles, des ritualités pour survivre contre toutes les menaces dont elle était la victime.
Mais maintenant, ce sont les alourdissements aux yeux de
l'opinion. Mais maintenant, peut-être que ce sont les alourdissements, qu'il faudrait regarder ces protocoles républicains, être plus attentif à la masculinité de l'espace qui demeure, hein, aux rapports sociaux qui sont dans ces espaces, et à toutes ces aristocraties de fonctionnaires qui vivent dans ces lieux. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui rend notre démocratie libre, vivante? Est-ce que nous n'avons pas d'autres possibilités d'envisager d'autres façons de faire la démocratie? C'est un petit peu la question que je voudrais soulever avec ce livre en fin de...
Dans une bulle en plastique, vous savez, comme le pape François vit dans une résidence 2 étoiles, juste à côté du Vatican. Alors, chacun pour soi, ce soir, au Palais Bourbon, motion de censure, les frondeurs ne vont pas la voter, qui ont intérêt à prolonger la législature jusqu'à usure totale, et puis car à eux, s'ils cherchent une investiture prochaine, il faudra même qu'ils fassent encore mieux que de ne pas voter la censure.
Il y a des collègues qui font du sabotage systématique dans l'hémicycle.
Le livre de Delphine Gardet aux éditions du Bord de l'eau, intitulé « Le linge du Palais Bourbon ». La préparation, c'était Franck Olivard. La réalisation, Jacques Sigal. Et à la technique, Ludovic Asselot.